Alors nous allons reprendre, nous ne sommes pas du tout en avance, et passer donc à cette deuxième session du séminaire qui se portera plutôt vers les alternatives possibles ou imaginables, éventuellement souhaitables, le débat qu'on avait déjà commencé d'ailleurs à esquisser lors de la première session. Donc de ce point de vue-là, peut-être dans la continuité de ce qui se disait déjà tout à l'heure. Je vais essayer de tenir ma promesse de faire une introduction extrêmement brève, mais quelques mots quand même sur l'article de Waldron pour ceux qui ne l'auraient pas lu. En un mot, il a une approche, il part des situations qu'il considère comme largement indécidables en matière de droits fondamentaux, parce que elle pose des questions de société qui en réalité ne sont pas susceptibles d'être résolues par le texte constitutionnel lui-même, avec des exemples tels que l'avortement, le mariage gay, la discrimination positive. On pourrait sans doute, à mon sens, y ajouter le génocide arménien qui a été évoqué tout à l'heure. J'avoue que moi j'avais lu le papier de Badinter dans Le Monde et franchement j'avais trouvé que l'argumentation, enfin j'ai beaucoup de respect pour Robert Badinter, mais là l'argumentation me semblait assez intenable. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc son point de vue à lui, c'est de dire il faut sortir de l'alternative le juge ou le politique. Il y a des conditions qui sont des préalables pour confier ce genre de questions aux organes délibérants, aux organes politiques. Ces conditions, c'est que les uns et les autres soient attachés aux droits fondamentaux, qu'il y ait un système de justice qui fonctionne, que la majorité et l'opposition globalement se respectent, etc. Enfin bref, qu'on soit dans une démocratie mature. Et sa thèse consiste à dire que dans ces cas-là, il y a rarement des cas de risque sérieux de tiraillis de la majorité, d'être pour ou contre le mariage gay par exemple, ou pour ou contre l'avortement, ça se pose pas ou ça se pose rarement en termes de majorité opprimante ou minorité, et que par conséquent dans ce cadre-là, il est légitime de laisser la question à la délibération parlementaire. Voilà en un mot l'argumentation de Waldron, en tout cas ce que j'ai pu en comprendre. Et ça fournira donc la base pour notre deuxième session du présent séminaire. Je voulais tout de suite céder la parole à Marie-Anne Coandet, qui ne pourra pas rester jusqu'au bout, et c'est donc la raison pour laquelle, avant qu'elle parte, elle souhaitait intervenir. Donc Marie-Anne, je t'en prie.
Voilà, merci beaucoup. Oui, je suis navrée d'être obligée de partir tout de suite. Un grand merci à vous tous, quel plaisir de vous entendre. Ça me change un petit peu d'atmosphère et j'en suis tout à fait enchantée. Alors, on cherchait tout à l'heure un naïf pour dire que le droit a du sens. Je suis naïf. Et pour faire la discussion, non pas que je sois, du moins j'espère, complètement naïf, mais je me dis à quel jeu on joue. Et j'étais très intéressée par tout ce que vous avez dit tous, et notamment sur cette question-là. En fonction de quoi est-ce qu'on commence sur cette question de la légitimité, en fonction du jeu auquel on joue. On joue au jeu du droit. Et pourquoi on joue à ça? Et donc, par rapport à cette question-là, quelle légitimité on attend? À mon sens, le jeu du droit, c'est un jeu qui, en tant qu'idéaliste, est celui de chercher une démocratie. Et dans cet objectif-là, je me dis, bon, bah, le droit, on va le considérer comme un instrument. Et c'est un instrument où on espère que le peuple va faire des règles qui ont un certain sens, des énoncés, on peut les appeler comme on veut, et qu'ensuite on va avoir des juges et des politiques qui vont essayer de les appliquer, non pas que j'ai la naïveté de croire que tout le monde les applique, mais que je pense que le jeu du droit c'est ça, c'est que, à mon sens, on se bat pour une idéologie, du moins c'est ce que je me fais moi, une idéologie qui est de construire un droit le plus démocratique possible, et par rapport à ça, on cherche un juge le plus démocratique possible. Et il me semble qu'il y a quelques concepts, notamment le concept de système de variables déterminantes, qui permet d'intégrer plusieurs éléments que vous avez évoqués, notamment, bien sûr, ces contraintes qui sont les contraintes juridiques évoquées par Michel, mais aussi les contraintes de la politique, les contraintes sociologiques, les contraintes psychologiques, etc., et qu'on peut tout ensemble les analyser pour voir comment on part d'un énoncé proposé, alors qu'on peut appeler norme ou qu'on peut appeler énoncé selon le système dans lequel on se pose, mais au fond, ça revient un peu au même. On a cet énoncé et on a tout cet ensemble d'éléments qui vont faire qu'on a un juge qui va statuer ou pas dans tel ou tel sens. Et juste deux petits mots pour revenir à des choses plus concrètes. Effectivement, on a parlé du juge, de la composition du conseil. Moi, chaque fois que j'étais en contact avec des membres du conseil, j'étais absolument sidérée par le fait qu'ils étaient tellement loin du droit. et que je pense que s'il n'y a plus de profs de droit actuellement, c'est tout à fait délibéré, parce que ça arrange beaucoup le secrétaire général. C'est quand même beaucoup plus pratique pour lui de dire le droit, c'est ça, et c'est pas autrement quand il n'y a pas de prof de droit en face. Et que cette composition, évidemment, est éminemment importante, et notamment par rapport à la question de l'État. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue à propos de l'intégration du droit communautaire dans la jurisprudence constitutionnelle. Et donc, je m'étais permis d'intervenir en disant qu'il faudrait peut-être en tenir un peu compte. Et là-dessus, je m'étais Yves Guéna s'était jeté sur moi en me disant « Mais madame, mais comment osez-vous ? Vous êtes ici dans le Saint des Saints. Nous faisons ici le droit de l'État, pas de l'Europe. » Et bon, il y avait Simone Veil à côté qui était venue à ma rescousse. Mais ça me semblait très significatif. Et autre chose très significative, c'est qu'ils n'avaient pratiquement jamais discuté entre eux des rapports entre le droit européen, droit de la CEDH, droit de l'UE et droit constitutionnel. Et je trouvais ça proprement ahurissant. Donc cette question de la composition très triviale me semble quand même importante et peut-être qu'on peut l'aborder notamment par ces éléments.
Non, ce n'est pas du tout une question triviale. D'ailleurs, Patrick Grassmann a délivré un papier extrêmement convaincant et extrêmement critique sur cette question de ce politicum, mais bien sûr, naturellement, authentique problème. Mikaï ?
Oui, moi je voudrais faire quelque chose pour cette deuxième session. C'est ce qu'on appelle les propositions utopiques qui n'ont pas pour but d'être sérieuses, mais qui ont pour but de donner à percoler. J'ai lu en 27 secondes l'article de Waldron, donc m'autorise à en parler. C'est encore une discussion où l'alternative, c'est un autre organe de l'État, c'est-à-dire c'est un problème de répartition des compétences entre divers organes d'État. Et évidemment, on passe de Charybde dans Scylla, surtout dans la tradition juridique française, où on a passé plusieurs décennies à se demander si le droit c'était la loi, si la loi c'était portée justement le législateur, et enfin moi je trouve pas ça très appealing, l'idée je suis pas sûr que le Parlement, dans sa composition et dans son fonctionnement, soit tellement plus intéressant que le Conseil constitutionnel, dans sa composition et son fonctionnement, ça n'est pas peu dit. Alors ma proposition utopique, elle est grecque, évidemment, et c'est l'institution de la graphe paranomon, c'est-à-dire vous tirez au sort 500 candidats, ou 500 citoyens, ou 5000 citoyens, comme vous voulez, ça dépend des proportions, et vous les faites voter et il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est le si, si,
tu as.
Oui, Guillaume.
Monsieur te dit.
C'est comme ce que.
Il a lu tous les erreurs.
Mais il a lu Hansen, il a piqué Hansen dans le jeu. Voilà. Donc, tu tires au sort des citoyens qui se constituent en juge et qui ne motivent pas, donc il n'y a pas de doctrine. C'est pour rejoindre la discussion avec Pierre, est-ce qu'on veut des arguments mieux ? Je veux dire, pas d'arguments du tout, ça me conviendrait assez bien aussi.
Ça, t'es assez gâté.
Ah oui, je sais pas, toi, t'es plein.
Pourquoi ? Parce que le peu, l'argument qui.
D'ailleurs, on sent presque tiré au sort.
Donc voilà, la proposition, elle consiste. L'idée, c'est de jouer avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, si on décide que c'est un organe politique, alors la question de savoir si c'est toujours un juge au sens où on l'entend, c'est-à-dire un organe collégial qui produit des motivations pour prendre des décisions selon le droit, et toujours ce dont on a absolument besoin. Je ne suis pas du tout persuadé.
Juste un petit mot à propos du tirage au sort. Dans le bouquin sur une 6e République écologique, on a proposé de réintroduire le tirage au sort pour une des chambres. Ce n'est pas pour les juges, mais bon.
Alors, juste cette idée du tirage au sort a retrouvé la faveur. Là, c'est un autre exemple, mais récemment, il y a des travaux en sciences politiques. Note de lecture dans l'Ius Politicum, il y a quelques 2-3 ans, sur cette question qui est pas mal débattue. Et je crois. Je me demande si en Islande il n'y a pas eu une consultation citoyenne pour un nouveau projet de constitution, et c'est la question de tirer au sort une partie des membres de ces corps délibérants pour un peu contourner la classe politique. Donc c'est quelque chose qui est dans le mainstream du 21e siècle. Donc peut-être que tu n'es pas utopique, mais simplement tu as de l'avance sur des solutions qui pourraient être.
Merci à vous.
Merci.
pas cette prétention.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, la revendication, quand il y en a dans la profession juridique en France, puisqu'on part vraiment de très loin avec, pardonnez-moi, avec le Conseil constitutionnel, c'est de dire, et avec bons arguments, comme Patrick Batsman, il faut que un niveau de qualification juridique minimum soit exigé. Alors en France, il n'y a pas d'examen d'État de type allemand, je ne sais pas trop comment on ferait, mais voilà, d'exiger ça. Et ça, évidemment, je vois bien que dans une certaine logique qu'on a discutée tout à l'heure, ça produirait presque l'effet inverse
Oui, je pense que la portée de la proposition utopique en question, elle est double. Elle est d'une part de dire si non seulement il n'y a pas de réquisite de compétence, mais ce sont des institutions d'incompétents par définition, parce qu'après tout, la démocratie, c'est le régime des incompétents, et le tirage au sort est le seul moyen d'en rendre compte. Donc, s'il n'y a pas de vérité du droit, il n'y a pas de gens plus compétents que d'autres pour trancher ces questions-là et donc amener au bout, un et deux, c'est d'en faire un organe muet, sans motivation, l'idée étant d'empêcher la constitution d'une doctrine. Parce que parce qu'il ne suffit pas que ce soit tiré au sort, parce que si c'est tiré au sort par des gens compétents qui produisent une vérité, une rationalité, alors ça sera pire, puisque ce sera une mauvaise rationalité. L'idée étant qu'il ne s'agit pas de produire une rationalité, il s'agit de trancher les cas.
Alors, deux questions, Mickaël, et après je cède la parole à Denis. Dans ton schéma, si je comprends bien, puisqu'il n'y a pas de motivation, les délibérations non plus ne sont pas publiques. Oui ou non? Est-ce qu'il y a un débat?
Alors,
est-ce qu'il est
à Athènes, il y a un débat, je ne sais pas s'il est public. De toute façon, le nombre de gens qui participent à ce truc-là est considérable. Hein. Donc, à Athènes, la personne qui introduit l'action, enfin, la fille par là, n'en présente aucun et. L'auteur de la décision attaquée se défend. Et si on n'a pas obtenu, je crois que c'est 20% des votes, on est ostracisé. Donc ça calme celui qui voudrait juste faire de l'obstruction et empêcher. Voilà. Donc il faut, pour ne pas être ostracisé, obtenir au moins, je crois que c'est 20% de l'assentiment de cette assemblée-là. Donc moi je ne suis pas avéré, je ne suis pas contre la publicité de ça.
D'accord. On délibère public, mais c'est quand même important,
oui,
parce que
oui.
C'est comme question.
Oui,
et deuxième question, dans ton schéma tout utopique qu'il soit.
Pardonne-moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait une délibération. C'est à Athènes. Mais moi, je ne suis pas forcément contre.
Ah oui,
crois qu'à Athènes, c'est on entend les deux parties, et ensuite on vote.
Ah oui, c'est la version Rousseau où chacun ne délibère que le soir. Tu t'agresses fortement,
Maxime. Ma proposition utopique, c'est pas la fébalade telle qu'on la trouve à Athènes, c'est tirage au sort, absence de motivation. À partir de là, on brode.
D'accord. Et deuxième question, est-ce que tu appliques ça à tous les cas de contrôle de constitutionnalité, ou alors est-ce qu'il s'agit de ce que Waldron appelle, je crois, les cas indécidables, ou ceux qui sont très problématiques, et si c'est le deuxième cas, qui décide du cas indécidable?
Parce évidemment, c'est tous les cas, parce que sinon, tu as un compétent qui va décider des.
Enfin, oui, je dirais le Conseil d'État,
tous les cas.
Voilà. Sinon, Marc Guillaume va décider les cas qui sont. Qui est dans un rapport.
Tous les cas sans exception. D'accord, donc tu déjuridicises totalement la question.
Enfin, je joue avec l'idée.
Denis d'abord, et puis Pierre ensuite.
Je veux dire les embêtements, je vais apporter la contradiction à Mickaël.
Oui.
Chaque fois que je lis Gernet, je suis pas certain de savoir si le droit athénien c'était vraiment du droit. Et je pense qu'un dispositif comme ça, ça produisait des choses, mais je suis pas certain que c'était ce que nous on s'est accoutumé avec Milan de rationalisation weberienne à. Après du droit, c'était de la sébelle politique, c'était la belle totalité de la critique de la cité grecque, de Hegel, mais je pense que ça, c'est pas la même cosmologie que nous quand même, mais c'était des gens qui pensaient qu'il y avait eux qui étaient capables de politique ontologiquement et de l'autre côté il y avait des barbares, et puis c'était des gens qui étaient quand même très très citoyens, donc toutes les fenêtres étaient ouvertes et tout ce qui s'ensuit. Et donc ça marchait probablement pour des raisons qui chez nous, à mon avis, ne fonctionnerait pas parce que la rationalisation weberienne est passée par là, et je pense que ce qui se passerait le surlendemain, c'est qu'il y aurait des gens qui feraient des commentaires des décisions de la boulet athénienne Le nouveau cahier de la boulette athénienne. On aurait des prix de la meilleure thèse sur la graphie par un homme. Donné à des mineurs jeunes, etc. Enfin, on se comprend. Et je pense qu'il y aurait un besoin de refaire du droit, même si on. Parce que fabriquer un noyau de production irrationnelle, on se comprend, mais non juridique au sens classique du terme de production du droit. Ça a été tenté plein de fois, et je dirais qu'à la limite, la loi d'expression de la volonté générale, c'était une des dernières tentatives, et quelque chose fait que, de toute façon, cette sphère de production politique du droit, qui veut surtout être politique, elle est, d'une manière ou d'une autre, rattrapée par un second moment, où il y a des vrais juristes qui disent « Attendez, mais ça ne veut rien dire, vous êtes gentil, mais moi je vais vous réinterpréter ça, et je vais tirer la vraie règle de droit de ce magma, qui est très légitime, mais qui ne veut rien dire. » Et je me demande si c'est pas ça qui réarriverait. Je voulais dire aussi un mot sur Waldron. J'ai repris mes notes sur Waldron pour découvrir avec horreur qu'elles étaient plus épaisses que le manche lui-même. Quel problème.
C'est déjà assez conséquent.
C'est le problème avec ce genre d'article qui est extrêmement scolastique. Mais il y a un fond intéressant derrière ça. Enfin, je résume, peut-être que vous l'avez compris très différemment et sûrement, mais moi ce que j'en ai vaguement retenu, c'est qu'en gros, ce que nous dit Waldron, c'est je vais vous fabriquer un dispositif idéal dans lequel il n'y aurait pas besoin d'un juge constitutionnel. C'est une démocratie qui fonctionne bien et j'en détermine les pourquoi elle fonctionnerait bien. Et après, je vais vous montrer que ces conditions-là, on n'en est pas si loin et que donc le juge constitutionnel, on pourrait s'en passer. On n'est pas obligé, comme dirait Michael, d'y croire. Il y a un côté extrêmement scolastique. Anglo-américaine moderne dans tout ça, il y a quand même des arguments intéressants là-dedans, mais moi il y a un truc que je retiens qui. Je voudrais inverser ce que dit Waldron, et au fond, moi ce qui m'intéresse c'est cette idée que s'il y a eu un juge constitutionnel, c'est à cause de dysfonctionnement du dispositif du constitutionnalisme classique, ce qui n'est pas du tout le discours qu'on est habitué à entendre, notamment en France, où on a l'impression que c'est pas à cause de dysfonctionnement, c'est à cause de l'imperfectionnement, ce qui n'est pas la même chose. Et au fond, ce qu'on pourrait retenir de Waldron en se fichant un tout petit peu de l'extraordinaire complexité de son raisonnement et puis de tout un tas de trucs qui ne nous séduisent pas beaucoup, c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'au fond, il faudrait refabriquer une histoire de la justice constitutionnelle où on mettrait en évidence l'extraordinaire incapacité qu'il y a eu pour le constitutionnalisme de marcher à un moment donné, qui a été différent sur les pays, etc. etc. Et peut-être que ça serait plus intéressant comme ça que l'éternelle histoire du perfectionnement des droits de droit. Et puis il y a quand même un truc pas complètement inexact, c'est la, ce que Hegel appelle la haine de la loi. On est animé par cette haine de la loi, c'est-à-dire la loi que nous faisons, nous la détestons. Nous en avons un besoin quasiment comme un drogué a besoin de son fixe, mais dès qu'elle est faite, elle ne nous plaît pas, on a des critiques contre elle, on la trouve mauvaise, etc. Et c'est dans ce gouffre, enfin c'est dans ce, voilà, cet abîme que s'engouffre la légitimité du juge constitutionnel qui est notre objet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de lois tout en sachant que c'est presque impossible d'en faire. Et comme on sait que c'est presque impossible d'en faire, on accorde beaucoup de confiance à quelqu'un dont on pense qu'il sera le grand correcteur, le grand pharmacien, celui qui viendra purger la loi de tous ses défauts. Je pense que l'étape d'après, c'est que, qui est-ce qui gardera les gardiens? C'est qu'il se développera probablement. Il y aura un jour une déception vis-à-vis du juge constitutionnel. Un grand sceptique qui est Jean-Marie Danquin me disait, la QPC, c'est déjà terminé. Bon, il anticipe peut-être un petit peu sur l'histoire, mais il y aura une déception. Moi, je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, quand il y a eu le développement de la CEDH et les avocats qui ont eu recours à la CEDH comme un nouvel instrument pour faire des recours, etc., retrouver des choses à faire. Puis ça s'est pas tari, mais ça s'est beaucoup calmé. Je pense que la QPC, ça sera pareil, ça rentrera. Mais là, le problème que nous avons avec nos institutions classiques, et c'est le lien entre la première remarque sur Michael et maintenant sur Waldron, restera. C'est-à-dire, au fond, on voudrait faire remarcher un truc qui enfin voilà, il y a une sorte de. Il faut toujours se demander les raisons pour lesquelles quelque chose arrive. Je pense que dans l'histoire de justice constitutionnelle, peut-être qu'on se la raconte, on ne se demande pas assez les raisons pour lesquelles ce qui est arrivé est arrivé.
En gros, c'est un peu la maxime de Pliquet-Ploch, il faut réfléchir avant d'agir.
C'est la maxime de la parodie des Inconnus de Santa Barbara où il y en a un qui dit, tu sais, Stéphane, je ne pouvais pas, agir autrement que tel que j'ai agi. Et faut identifier la nécessité historique. Et identifier la nécessité historique, c'est identifier les contradictions internes au processus historique.
Ouais. Donc tu nous suggères de devenir des professeurs de dysfonctionnement constitutionnel et comparé.
Ouais.
Moi j'aime bien,
oui, cette
idée.
Ça, oui, c'est ça.
J'aime bien cette idée, c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup le Canada par exemple. Je trouve qu'il y a des formes de pathologie qui sont quand même extrêmement intéressantes. Je crois que je ne résisterai pas à un moment ou à un autre à soumettre ma propre idée de truc un peu utopique, mais avant, parce que j'ai quand même quelques vagues restes de sur moi, je céderai la parole à Pierre.
Non, je t'en prie.
Vas-y Pierre. Non,
parce qu'il y a une autre forme d'utopie, c'est de garder les juges. De continuer à leur donner, de célébrer comme on le fait, tout ça, même presque pire, mais de leur donner des dés. Ça a été tenté déjà dans certains livres. Et voilà, on leur dit maintenant, vous avez des dés, vous n'avez pas de texte, vous n'avez pas de constitution, vous avez un dé, et débrouillez-vous. Et donc,
non, c'est le moment du conseil. Je pense à John Elster, et quand je pense à John Elster, je pense à la
chouette. À notre psychanalyste.
Et donc,
à notre lacan du droit politique.
C'est une autre solution. Bon, alors, moi j'aimerais beaucoup faire ça, mais d'ailleurs, en fait, il y a une autre manière encore de d'introduire un peu de désordre, c'est de traiter ces décisions du Conseil constitutionnel pour lui-même, enfin bon, parce que c'est lui dont on parle, mais comme le résultat d'un jeu de dés, mais on peut aussi tenter de faire la même chose avec des décisions autres que celles du Conseil constitutionnel. Bon,
qu'est-ce que ça apporterait pour l'interprétation de faire ça, ce dispositif que tu proposes?
Ben justement, ce serait très amusant parce qu'on pourrait voir alors, on serait obligé, enfin ceux qui le commandent ne pourraient plus du tout croire à l'obligation née dans un texte, à imaginer que tout était évidemment évident, à reconstruire un état d'argumentation très subtil pour montrer à quel point c'était vraiment très intelligent. Et d'ailleurs, on n'inventera pas non plus, on ne pourrait plus inventer toute cette histoire de, je ne sais pas, toute cette histoire, cette pseudo-histoire sémantique de la liberté d'association a toujours été pensée comme ceci ou comme cela, dans notre culture nationale, etc. La tradition républicaine veut que, etc. Donc on ne pourrait plus du tout avoir recours à ce genre de choses. Donc tu démolirais effectivement tout ce discours et cette relation ambivalente entre le discours que produit la juridiction et celui qui le commente. Et tu pourrais effectivement arrêter de faire ça et arrêter de commenter des décisions et dire, ben après tout, nous, on peut prendre la même décision avec le même. Alors, ça, c'est si on veut introduire du désordre, on peut faire ça. Mais pour revenir à Waldron, il y a quand même une chose qui est assez paradoxale. Tu as parlé d'articles scolastiques. Bon, il faut connaître que 90% des articles des revues américaines sont scolastiques. Ils sont tous fondés sur le même modèle. Il faut faire minimum 50 pages, avec, si possible, 55 pages de notes de bas de page. Donc, ça, effectivement, il y a quelque chose de très scolastique. En même temps, il y a aussi une espèce de candeur, presque de générosité, d'ailleurs, dans cette façon de développer un très grand nombre d'arguments, d'y croire, de penser que c'est très important. On redécouvre le fil à couper le beurre, à peu près toutes les pages, mais il y a malgré tout quelque chose qui est très sympathique chez Waldron, c'est qu'il ose, introduire cet élément-là dans le débat américain. Alors, on lui a fait remarquer déjà qu'il n'était pas le seul à avoir contesté ça, mais il le fait en fait dans les termes même de ceux auxquels il s'oppose. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Et alors en même temps, ce qui est frustrant, c'est que moi, ce qui me frappe en tout cas, c'est que pour lui, les droits, donc on doit être committed in rights, donc il faut, voilà, on doit croire aux droits, tous ces droits sont pensés de manière totalement uniforme. C'est-à-dire que il associe aussi bien les droits politiques qui sont qui seraient les droits nécessaires au fonctionnement d'une démocratie avec tous ces droits individuels que ce soit le mariage gay ou l'avortement, etc., qui sont reconnus au titre d'une sorte d'amélioration des conditions de vie ou d'amélioration des situations et aussi de défense des minorités. Et c'est ça qui est très frustrant si on prend au sérieux son article, c'est que autant on peut parfaitement adhérer à son idée qu'il y a des questions indécidables qui supposeraient, qui sont des vraies questions de valeur, qui supposeraient un débat parlementaire, autant on a le sentiment que ces questions indécidables, malgré tout, parce qu'elles portent sur des questions proprement individuelles, sont aujourd'hui, comme d'ailleurs hier, mais supposent en réalité un tiers qui aurait une autorité autre que l'autorité politique. Et ça, ça manque complètement. Il n'y a pas du tout de réflexion sur le statut de l'autorité politique dans les sociétés contemporaines. Il n'y a aucune réflexion sur la profonde mutation qu'a produit ou qu'a introduit le juge constitutionnel dans l'exercice même de l'autorité. Là, je rejoins ce que tu disais. C'est-à-dire que je ne sais pas si le juge constitutionnel est venu parce que la démocratie apparaissait, enfin la démocratie au sens classique, délibérative, de pure délibération parlementaire était épuisée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a produit l'idée que le débat politique n'est pas un débat qui peut faire une certaine autorité ou qui peut arrêter un ensemble de discussions sur des questions de droit proprement individuel et d'amélioration des conditions de vie. On a besoin d'une sorte de tiers et on a trouvé ce juge constitutionnel. Il y a encore quelques systèmes dans lesquels on n'a pas rentré dans cette croyance. Mais malgré tout, dans le débat, en tout cas dans le contexte américain dans lequel intervient Waldron, son discours est très séduisant, mais en réalité, il a aucune chance de passer. Voilà.
Oui, j'arrive. Quand tu dis on a besoin d'un tiers, c'est une question. Clarifions. Des gens comme les Américains ou nous sommes habitués à avoir besoin d'un tiers, ou est-ce que tu dis on a besoin d'un tiers parce que c'est comme ça?
Non, je dis.
Ce qui serait assez contradictoire avec tes positions de tout à l'heure.
Non, mon propos est tout à fait historique et situé. C'est-à-dire que dans ces systèmes démocratiques qui croient que la démocratie est compatible avec le constitutionnalisme juridictionnel, on adhère complètement à l'idée que la préservation des droits, malgré tout, suppose un tiers qui a une autorité autre que venant simplement et du suffrage et de la délibération. Je ne dis pas du tout que c'est une ontologie.
Guillaume Guénard souhaitait prendre la parole et ensuite ce sera notre Lacan des droits politiques.
Oui, c'était pour... revenir sur les propos sur un système idéal qui permettrait finalement de se passer d'un juge constitutionnel qui serait un vrai juriste. Je trouve que cet idéal finalement repose sur une désillusion. Parce que je ne peux pas atteindre finalement un système parfait idéal, alors on va, et le système existant ne l'est pas, on va se rabattre sur quelque chose qui finalement est très aléatoire. Alors ça peut être la théorie du dé, on lance le dé et on a la solution. Il y a quelque chose qui me gêne là-dedans, d'abord parce que je trouve que c'est un idéalisme qui est déprimant parce que, et qui s'autodéprime parce que je fixe l'idéal, je ne peux pas atteindre cet idéal, donc je vais peut-être inventer un autre idéal pour combler ce que je ne veux pas atteindre. Je pense qu'il faut admettre qu'on a un système qui n'est pas parfait et qu'il faut trouver quelque chose de raisonnable. Le juge constitutionnel dire que on va ériger une assemblée de citoyens qui va voter sans argumentation ou qu'on va jeter les dés pour décider de la décision, ça ne répond pas au problème, parce que d'abord jeter les dés, c'est bien qu'on jette les dés sur une proposition, donc on repousse en quelque sorte le problème. Il faudra bien que quelqu'un fasse une proposition, qu'on tire au sort cette proposition. C'est un petit peu pareil dans un système où il y aurait une assemblée qui voterait sans délibérer. Il y aura des partis qui vont faire des propositions. Donc on aura toujours de toute manière quelqu'un qui va proposer une argumentation. On n'échappera pas à cette argumentation. Ensuite, pour ce qui est du Conseil constitutionnel précisément, bien sûr, sa composition n'est pas satisfaisante parce qu'on a des décisions qui ne sont pas compréhensibles, c'est indéniable. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur une composition, je pense, technicienne. Pour deux raisons. La première, c'est que le Conseil constitutionnel, enfin le juge constitutionnel doit être un juge, n'est pas un organe strictement politique. Alors il y a toujours de la politique qui va se glisser dans ces décisions, c'est, on ne peut pas l'éviter. Et il faut l'admettre. Et il faut admettre simplement, il faut se dire, c'est admissible tant que c'est raisonnable. Et au fond, si ce n'est pas raisonnable, il y aura toujours une solution de rechange qui est que l'organe constituant pourra intervenir pour faire cesser la décision déraisonnable, juger déraisonnable politiquement, juridiquement et politiquement. Donc ce premier point, c'est cela. Le deuxième point, c'est que pardonnez-moi, j'ai perdu le fil de mon propos. Mon premier point, c'était il faut une composition technicienne parce qu'on a quelque chose qui n'est pas exclusivement politique. Et puis il faut une argumentation qui vienne expliquer la position pour tout simplement pour légitimer la décision, même si, c'est pas très clair, pardonnez-moi, même si on sait très bien que, au fond, ça ne sera pas parfait. Hein, ce que je veux dire par là, c'est que il faut admettre qu'on puisse pas avoir un système parfait, mais il faut un système raisonnable avec des juges qui admettent qu'ils sont là pour appliquer le droit de manière imparfaite dans Et afin de rendre des décisions raisonnables.
Donc en gros, Guillaume, si
oui, je te réponds.
Ne touchons à rien.
Non, parce que là, on est...
Juriste au Conseil constitutionnel.
Oui, c'est-à-dire, au fond, il faut une formation juridique, une vraie formation avec des vrais juristes. Il faut une formation avec des vrais juristes et qui rendent des décisions avec une argumentation, même si cette argumentation est susceptible de faire l'objet de discussions. Hein, on ne leur demande pas de faire quelque chose de parfait. On leur demande tout simplement à un moment donné d'arbitrer un litige sur la base d'un texte qui est censé être un texte, on va dire, globalement consensuel, hein, qui est la Constitution. Et de faire prévaloir ce texte qui manifeste un consensus sur des règles qui sont inférieures et qui sont considérées comme étant les règles d'une majorité, donc potentiellement comme étant des règles partiales, et en tout cas contraires à la Constitution.
Alors je m'autorise à rebondir sur ce que tu as dit, ça me donne un bon prétexte pour ne pas m'empêcher de donner d'utoper, que j'allais dire pour tout le monde. C'est beaucoup moins, l'idée que j'avais est beaucoup moins, ça va beaucoup moins loin que ce que disait Mickaël ou que ce que disait Pierre. Mais en réfléchissant à ces questions et à ces imperfections, je repensais à la position qui avait été celle de Lincoln au moment de l'arrêt de Red Scott. Évidemment, Lincoln était dans une situation plus que terrible face à un arrêt pareil. Puisqu'en même temps, évidemment, il n'était pas d'accord, mais non plus, mais il devait quand même essayer de préserver les institutions fédérales. Et donc Lincoln s'en tire en disant, écoutez, bon, moi, l'arrêt de Scott, sur le cas d'espèce, je conteste absolument. C'est la décision. Maintenant, je dis, pour le reste, l'autorité, alors au sens juridique du terme, hein, je ne parle pas de l'autoritas dont parlait Pierre tout à l'heure, l'autorité de cette décision, elle se limite au cas individuel, point barre. Et là-dessus, il arrivait, comme ça, à peu près à ménager les contraires. Et du coup, il me semble, en termes de valeur juridique, j'aime bien ce raisonnement où on se prend toujours la tête pour savoir si le motif est dispositif. À mon sens, la vraie question, c'est pas ça, c'est la portée individuelle ou pas d'une décision. Il me semble qu'à partir d'une décision, à partir du moment où une décision fait jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle devient applicable à tous les cas semblables à l'avenir, à partir de ce moment-là, il me semble assez crystal clear, si on peut dire, qu'elle est de nature législative ou constitutionnelle, ne se limite pas à l'autorité d'un arrêt de justice. D'où l'idée que périodiquement, alors ce n'est pas du tout réaliste sur le plan pratique, mais que périodiquement, le Congrès
pourraient se réunir, mettons tous les 4-5 ans, quelque chose comme ça, regardent la jurisprudence du Conseil, puis disent, bon, ben, ça je prends, ben, non, ben, ça je prends pas, ça je prends, ça je prends pas. Puis éventuellement ça je modifie, et ça me choquerait pas du tout, ça me choquerait d'autant moins que l'exigence d'une majorité des 3/5, de toute façon, rendrait impossible une tyrannie de la majorité. Donc voilà pour le schéma, la possibilité d'amélioration qu'on n'appliquera jamais.
Enfin, c'est le lit de justice.
Ah non, non, parce que le lit de justice, il intervient à chaud. Il intervient à chaud, et pour contredire ce qui vient d'être fait, et donc d'une façon qui est tout à fait contestable, tandis que si c'est 5 ans plus tard, les patients ont eu le temps de se refroidir.
Il y a des équivalences. Est-ce que proposait Jefferson proposait quelque chose d'assez comparable en disant, je crois que tous les 10 ans, les lois cessaient d'être appliquées et que.
Il y a plein de lois qui sont. Valent simplement pour 5 ans, on a beaucoup plus que chez nous, ça arrive. La loi sur l'avortement, c'était ça. Mais souvenez-vous, la fameuse loi sur l'éthique en matière gouvernementale, avec l'institution du procureur spécial indépendant, elle était valable pour 5 ans, elle a été renouvelée 3 fois, et pas une quatrième à cause de ce que nous savons.
Oui, ça reste assez de Jefferson, ça, je n'ai pas eu ça. Alors, j'ai plusieurs demandes.
Oui, je voulais juste rajouter un point. Pardonnez-moi, j'étais extrêmement confus. Il y a un point qui n'a pas été souligné, c'est que pourquoi il faut des juges professionnels qui vont rendre une décision argumentée. C'est que tout simplement le droit est là pour encadrer la société, pour fixer des règles à la société. Et qu'est-ce qu'attend la société et les acteurs politiques, économiques, sociaux de la société, c'est de pouvoir prévoir. Si je me lance dans telle chose, je peux prévoir à peu près quelles seront les règles, même si elles n'ont pas encore été expressément posées. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas admettre un système de hasard, comme on ne peut pas admettre le système actuel du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a trop de parts au hasard. C'est pas prévisible. Si on prend le droit administratif ou le droit civil, mine de rien, au-delà des... Parfois des revirements de jurisprudence, certes, il y aura toujours des revirements de jurisprudence, il faut l'admettre. Mais au-delà de cela, quand on connaît bien ce droit, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, on finit par à peu près savoir ce que l'on peut faire dans une situation donnée. Y compris lorsque la règle n'est pas parfaitement adaptée au cas donné. Et c'est, donc ça, je pense que c'est un point très important et qui justifie que l'on ait des juges professionnels, c'est d'assurer... un droit qui assurait aux acteurs de la société, à la société, d'imaginer ce que pourrait être le droit, y compris le droit qui n'est pas complètement posé.
Alors j'avais des demandes de prise de parole de la part de Arnaud d'une part, Renaud Baumert ensuite et Mickaël enfin, si tu le permets. Donc Arnaud Pilouet.
Bon, normalement, les psychanalystes se taisent. Hein. Ça m'étonne beaucoup que tu aies choisi quelqu'un comme ça.
Il parle peu, mais quand il parle, c'est de manière brève. Et
non, mais je vais pas commettre une entorse très grave à la déontologie psychanalytique, puisqu'en fait, je ne vais pas du tout formuler une opinion quelconque, mais simplement pour dire à Mikhaïl que son utopie... J'ai lu des choses qui tournent un peu autour de ça, et en particulier... sur cette idée de constituer un jury constitutionnel tiré au sort, évidemment inspiré de l'exemple grec qui continue d'inspirer sinon en matière budgétaire au moins en matière politique je savais que j'aurais dû garder le silence.
Non, ça serait Nora sur le prêt
Non, oui, j'ai lu un article en particulier d'un Argentin qui s'appelle Horacio Spector, qui a travaillé sur ce qu'il appelait deux modèles de jury constitutionnel. Le jury constitutionnel, il oppose ça aux cours constitutionnels constitués justement de professionnels du droit. Les jurys ne sont pas constitués de professionnels du droit. Il distingue deux types de modèles de jury constitutionnel. Un modèle qu'il appelle aristocratique, et en gros c'est la jury constitutionnelle de Sieyès. On sélectionne les plus sages dans le système politique pour les faire trancher ce genre de litige. Et puis il y a un modèle qu'il appelle populiste, qui est donc un organe tiré au sort. Alors, je voulais juste ajouter à ce complément que cette idée peut être a le mérite de pouvoir, à mon avis, être fondée sur une théorie de la démocratie tout à fait cohérente et consistante, puisqu'il s'agit de dire que les questions, il s'agit de quoi ? Il s'agit de trancher des questions de valeur. Alors, je ne me souviens plus vraiment des détails de l'article, mais il s'agissait pour lui de faire une comparaison entre les jurys d'assises et la distinction fait droit, et enfin, il reprenait cette distinction très problématique à la distinction fait droit-valeur, hein, en disant ben, finalement ce qu'on peut demander à un jury tiré au sort, c'est de trancher des questions de valeur, et finalement là il n'y a pas de compétence particulière à avoir, il s'agit de trancher ce type de questions voilà, de manière assez démocratique et très égalitaire, puisque chacun aurait un droit égal à trancher ce genre de questions. Et puis, j'ajoute que, en réalité, on gouverne beaucoup plus par le sort aujourd'hui qu'on ne le croit, puisque les sondages, finalement, ne sont pas autre chose qu'une prise de panel représentatif de la population à qui, enfin, sur lesquels se fondent beaucoup de politiques aujourd'hui. Donc, il n'y aurait pas vraiment de choses très choquantes là-dedans. Voilà, tout ça pour apporter de l'eau à ton moulin et me faire pardonner cette petite...
Je trouve ça très intéressant, je ne connaissais pas ce point de vue, mais il me semble que faire quelque chose qui ressemble un peu à la distinction entre le fait et le droit, je trouve que c'est, en effet, avec droit et valeur, c'est vraiment intéressant, parce qu'au fond, si c'est politique, enfin, en tout cas dans ma conception de politique, lorsque c'est politique, c'est pas irrationnel, mais il y a toujours un moment où la rationalité cesse et où on passe à des choses qui, en fait, sont d'une nature passionnelle, affective, et que s'il y a une justification à la démocratie, c'est bien à cause de ça, c'est bien connu. Parce que lorsqu'on est sur ce terrain-là, il ne s'agit plus de compétences, mais il s'agit de convictions. Donc, je ne connaissais pas cette idée, je la trouve très intéressante. Renaud Baumert,
la parole. Merci. Je me sens d'autant plus autorisé à parler que hier, j'ai déjeuné à la table du président du Conseil constitutionnel, et donc c'est auréolé de oh. cette. Ah oui. Et donc, il nous a dit notamment que. Le système idéal, c'était pas celui où les juristes décidaient, mais donc ça tombait bien en fait, celui où les hommes libres décidaient. Et je suis, je l'ai entendu. Et moi ça m'a plongé dans des abîmes de perplexité, je dois dire. Alors, pour ce qui est d'améliorer les cours constitutionnels, en tout cas le Conseil constitutionnel en France, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que le mode de composition n'est pas idéal, non seulement parce qu'il n'assure pas la compétence des membres, donc ça ce serait assez facile sans doute de placer une barre de compétence minimale, mais ce qui serait intéressant aussi c'est peut-être de mettre fin à la règle vae victis qui veut que ce soit toujours les autorités de nomination étant ce qu'elles sont, peut-être qu'il serait bon de faire investir des juges constitutionnels nommés par groupe à l'approbation qualifiée du Parlement. Ce qui permettrait d'avoir un certain équilibre politique au sein du Conseil constitutionnel, comme ça existe dans un certain nombre de cours. Alors, ça ne paralysera pas, évidemment, les choix politiques qui seraient faits par les cours constitutionnels, mais ça les rendrait peut-être plus acceptables, comme ça se fait dans un certain nombre de pays. Alors, en dehors de ça, la question qui se pose, admettons que ces éléments de réforme permettent d'améliorer la qualité de la jurisprudence constitutionnelle, même une jurisprudence constitutionnelle qui serait très rationnelle, très détaillée, très intéressante, très argumentée, je ne sais pas si on peut mettre en balance ce type de décision avec le type de décision démocratique qui passe par la désignation de représentants et la décision de ces représentants. Je pense que la question fondamentale est là. Est-ce qu'une décision très argumentée est vraiment l'équivalent d'une décision qui a été voulue par les représentants élus du peuple? Et moi, j'avais une idée un peu comparable à la tienne, Carlos, qui était de savoir, enfin, à mon avis, la légitimité de la justice constitutionnelle, ça va être largement, si on vit effectivement cette désillusion qui semble nous frapper durement, mais pas Jean-Louis Debré, rassurez-vous, si on vit cette désillusion, est-ce que la solution, ce ne serait pas de repenser moins la justice constitutionnelle, par ces questions techniques, que le mode de révision de la Constitution. Parce que bien entendu, quand on a des constitutions très, très rigides, l'évolution du droit constitutionnel se fait de manière jurisprudentielle. Hein. La question qui se poserait, c'est est-ce qu'on ne veut pas Ou est-ce qu'on ne voudrait pas contrebalancer ça par un recours plus fréquent, plus rationnel au pouvoir de révision constitutionnelle? De ce point de vue-là, moi j'étais assez d'accord avec ce que tu disais. Une autre solution pourrait consister à élire une chambre de révision constitutionnelle tous les 10 ans ou tous les 5 ans, enfin, ou à l'échéance régulière, et à charge pour elle de constitutionnaliser la jurisprudence ou de ne pas la constitutionnaliser selon des procédures qui, vraisemblablement étant dans la logique qu'on utilise, seraient des procédures à la majorité qualifiée. Et on pourrait tout à fait également découpler cet organe ou un organe de ce type, un organe de révision constitutionnelle régulier, des fonctions législatives, c'est-à-dire confier la révision de la Constitution à un organe qui soit exclusivement élu pour ça. Ça aurait, à mon avis, des vertus, notamment si cet organe était élu au suffrage proportionnel, enfin au scrutin proportionnel pour représenter les opinions le plus largement possible. Et ça permettrait aussi ce qu'on nous présente souvent comme un des bénéfices de la justice constitutionnelle, à savoir les décisions de la justice, enfin, du juge constitutionnel, lanceraient, paraît-il, de grands débats de société, de fond, etc. Débats dont on mesure assez rarement la réalité et la profondeur. En l'occurrence, peut-être que ce serait un moyen pour les citoyens de se les réapproprier en élisant des gens qui décideront sur des questions qui auront été tranchées. Alors, le bénéfice d'un tel système serait que la justice constitutionnelle produit évidemment des normes paraconstitutionnelles, alors je ne sais pas comment il faut les appeler, mais en tout cas, produit par exemple des PFRLR, etc. Donc, il y a une inventivité de ce point de vue-là dont il n'y a pas forcément lieu de se priver, parce qu'elle peut être intéressante comme mode de découverte du droit ou de production en réalité du droit, distinct du mode volontariste, mais je ne suis pas certain qu'il soit acceptable en soi. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'il ne faille pas une dernière étape qui consiste à faire approuver par des élus, selon un système démocratique, les principes ainsi découverts. L'avantage d'une solution de ce type, qui consisterait à confier à un organe de révision constitutionnelle élu de manière régulière la chose, ce serait de permettre à ces principes jurisprudentiels, les PFRLR, etc., ou les principes que Denis Barranger a pointé du doigt, de s'appliquer un certain temps pour voir s'ils fonctionnent, si on en est conscient, si on est content, pardon, je veux dire, de leur application. Ou s'il convient, au contraire, d'y mettre fin. Voilà.
D'accord. En gros, c'est un petit peu donc similaire à ce que j'imaginais, mais avec le système des conventions à l'américaine, c'est-à-dire séparé du pouvoir ordinaire, si je puis dire. Un petit instant. Alors, donc, j'ai comme prise de parole donc, Mickaël, puis Guillaume, puis Denis, puis Régis.
Oui, moi, je voudrais...
Je vous demanderai d'être bref, parce qu'il ne nous reste que 20 minutes.
Je voudrais lier la question de cette discussion sur les propositions, les réactions à ma proposition utopique, avec la question de nous, professeurs de droit, nous, juristes, nous, etc. Il me semble qu'il y a un lien. Alors d'abord, et comme il faut que je sois bref, je vais être très bref, je ne suis pas du tout d'accord avec Denis. Je pense que... En fait, je pense que la reconduction de un peu mécanique à laquelle
t'as pas d'accord avec quoi?
Alors, la reconduction mécanique de l'idée hegelienne que la Athènes est une belle totalité et que les conditions de possibilité d'une société politique, ça, ça me paraît être un argument ad hoc pour imposer un mode de gouvernementalité à l'État. Et faire d'Athènes un repoussoir, ou plus exactement le rejeter dans les poubelles de l'histoire. Moi, il me semble qu'on peut faire de la politique aujourd'hui. Et que je pense qu'on peut faire de la politique sans forcément du droit, sans forcément de l'État, et qu'on n'a pas besoin d'une belle totalité pour ça. Et d'ailleurs, qu'Athènes n'était pas une belle totalité du tout. Je ne développe pas, mais. Alors, pour revenir sur les.
Ah non C'est ça ta remarque
quand même. Pour revenir sur le... Voilà. Moi j'ai l'impression, la question en fait, elle est à prendre. Je pense que chacune de ces propositions n'est pas tellement à prendre, c'est pas tellement intéressant
en tant que tel, pour savoir si c'est faisable ou si c'est pas faisable, la question c'est qu'est-ce que ça nous donne à penser. Et par exemple, j'aime bien la proposition de Pierre, parce que ça nous donne à penser du droit chaotique, et ça introduit du désordre dans le droit. Ça, c'est, bon. Moi, je crois que ce que je voulais dire, c'est pour ça que je pense que je ne tombe sous le coup ni de la réponse de Denis ni de celle de Guillaume. Quand Denis dit il y a toujours des juristes pour récupérer la source politique du droit, c'est absolument vrai, si c'est du droit. Mais justement, ça cesse de l'être dans ce que je raconte. Donc il n'y a plus de juristes pour commenter ce que ferait la Vingt et pas la Ronde, parce qu'il n'y a plus rien à commenter, il y a juste la décision à l'état. Et répondre à ce que disait Guillaume, moi je ne vois pas ça comme un système idéal du tout, je vois ça juste comme un truc qui nous donne à penser quelque chose. Alors qu'est-ce que ça nous donne à penser? Ça nous donne à penser le fait qu'on joue avec la frontière droit et politique, et on se dit « ah oui, il y a de la politique dans le droit, ah oui, il y a quelque chose qui est politique ». Alors moi, ce que je voulais faire, c'est nous inviter à passer de l'autre côté, c'est-à-dire à se dire « mais qu'est-ce qui se passe si j'abandonne le droit, après tout ?» En fait, c'est une question d'imagination institutionnelle, c'est-à-dire, et ce qui est intéressant, alors c'est peut-être un peu maso, un peu flervert de poser la question ici, parce que c'est une assemblée de juristes, mais c'est est-ce que nous sommes capables de penser les limites politiques de ce que nous faisons? Un peu sur le mode de quand les juristes se disent il faut faire du judicial restraint, est-ce que nous, on est capable de faire du legal thinking restraint? C'est, est-ce qu'on est capable de se dire, ah ben cet objet-là, en fait, c'est pas le droit qui... C'est pas les institutions juridiques qui nous conviennent, c'est pas comme ça qu'il faut résoudre le problème. Et moi, je pense que quand même, c'est une expérience de pensée assez saine que faire un legal thinking qui soit assez restrained pour être capable de contempler son autre. Après tout, c'est pas mal.
Et pour commenter, il y aura la science politique qui sera toujours là.
Non, pour le commenter, il y aura d'autres savoirs.
Science Po, donc c'est qui FD.
Tu sais ce que je pense de la science politique à Science Po, Marvel. C'est toujours pas faire.
Guillaume et Guillaume Tussaud, je précise, puisque nous en avons deux.
Des remarques très brèves. Il y a d'autres techniques que toutes celles qui ont été mentionnées. Il y a la technique canadienne de la clause non-obstant qui permet au Parlement de dire que bah, c'est inconstitutionnel, bah, peut-être bien, donc de manière préventive, et ben hop, on fait sauter l'inconstitutionnalité quand elle porte sur l'incompatibilité de la loi avec certains articles de la Charte des droits et libertés, ou bien on la fait jouer a posteriori. Ça a été jugé inconstitutionnel, hop, clause non-obstant, ça s'appliquera quand même pour 5 ans renouvelable. Et le Québec, on a fait un usage assez amusant, puisque ils ont pris une loi dans les années, je ne sais plus, en 82-83, peut-être une loi qui disait « Toutes les lois en vigueur au Québec à ce jour sont abrogées et re-enacted avec la clause supplémentaire. Nous portons exception à la clause, nous utilisons la clause non-obstant pour chacune de ces lois. » C'était assez marrant, ça a décrédibilisé le mécanisme, mais en tout cas,
il
reste.
Il y a le pocket veto, mais là, c'est l'oubli de justice de poche, quoi. C'est ça.
Ça a essayé ce type de truc. Une des lois fondamentales d'Israël prévoit le même dispositif. Alors, donc, il y a ça comme technique. Sur l'histoire de ce que proposait Renaud, là, des facs de juges, je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée sur le plan de la technique institutionnelle, parce que ça conduit à des négociations, surtout quand la majorité pour la nomination de ces juges est importante, dans les 2/3, les 3/5, etc., dans les assemblées, ça conduit à des négociations sur le paquet, et ça conduit à attendre souvent très longtemps pour qu'un nombre suffisant de juges soit démissionnaire, soit partant à la retraite, soit mort, pour pouvoir nommer un pack, justement, composé, selon leur point de règle de pas une règle d'or ou une règle magique, une formule magique à la Suisse, mais avec un plus ou moins socialiste, un plus ou moins de droite, etc. Et en Espagne, récemment, ils ont eu des problèmes assez sérieux là-dessus, où des juges dont le mandat était expiré depuis des mois restaient en fonction, tout simplement parce que les majorités renforcées pour nommer des packs de juges n'étaient pas réunies, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Donc je ne suis pas certain que sur le plan du design institutionnel, ça marque. Mais ensuite, c'est pas grave du tout. C'est de vouloir que les juridictions marchent.
Ouais. Mais est-ce que cet inconvénient est pire que celui d'avoir toujours le camp vainqueur qui mène des juges socialistes, comme on l'a fait?
Et je sais pas, enfin, je n'ai pas le temps de répondre à ça, mais dernier élément sur l'ensemble de la discussion, avec les questions d'application temporaire des décisions des cours de justice, des formes de sunset rulings des cours constitutionnels. Ce qui émerge de la discussion, c'est quelque chose qui est très souvent tu dans la discussion sur la légitimité des juges constitutionnels et qui est très bien mise en valeur par un auteur espagnol qui est Juan Carlos Bayón et qui dit que la seule manière d'appréhender cette question, c'est de renoncer à tout argument général. Il n'y a pas d'argument pour la légitimité des juges constitutionnels en général. Il n'y en a pas contre leur légitimité en général. Il y en a uniquement au cas par cas, selon les argumentations toujours plus ou moins conséquentialistes, dans quelle hypothèse telle cour a plutôt protégé le droit de l'homme et c'était plutôt lieu. Dans telle hypothèse, elle a plutôt protégé les droits des entrepreneurs contre les droits des pauvres qui se faisaient expulser, et c'est plutôt bien si on est pour les entrepreneurs, plutôt méchant si on est pour les gens qui se font expulser. Mais au bout du compte, ce papier de Bayonne montre que faut plus d'empirisme dans la théorie constitutionnelle, voir au cas par cas les conséquences de l'action du juge constitutionnel, et donc d'une certaine manière voir aussi ce que les discours juridiques produisent comme effet de réalité, et puis plus de relativisme et beaucoup moins d'absolutisme, de généralisation, parfois hâtive, c'était un peu chez Wavron, dans l'analyse normative qu'on fait des institutions.
Denis ?
C'est très bien d'essayer de réformer la constitution dans un sens plus démocratique. Je suis moi-même d'état d'ennemi démocrate.
Le micro qui vient de tomber, il doit y avoir un pas du sonore. Donc ça n'est pas Fukushima.
Non, mais c'est au fond, on essaie de pas. Il y a des cycles de réflexion sur l'ingénierie constitutionnelle, et c'est toujours un peu, c'est pas assez démocratique, faudrait que ce ne soit plus, ou c'est pas assez droit de l'homme, faudrait que ce ne soit plus. Et c'est intéressant, mais merci. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire au fond, ça. Faut laisser les. Je me demande, moi ce que je proposerais, c'est qu'on laisse les autres le faire. Il y aura toujours Jack Lang, des gens très bien, des élus du peuple, enfin pas que lui, bon. Qui font ça. Et je me dis que le travail de la personne qui est payée pour être professeur de droit, ça peut être aussi, pour parler comme Saint-Paul, de convertir Simon Souker ou Vincent Guerre, et de regarder le matériau. On ne regarde jamais assez. Et au fond, tout ce qu'on a dit là, en lisant des décisions, en essayant de les interpréter, on peut le retrouver, c'est-à-dire au fond des dimensions du chaotique dans la jurisprudence, il y en a, des dimensions, c'est quasiment certain qu'il y en a, il y a beaucoup de politique, et au fond, je me demande si une des manières justement de convertir notre regard ne serait pas de renoncer à ce que j'appellerais l'hypothèse du tout normatif. C'est-à-dire, au fond, des grands reproches que je fais sur la lecture des décisions, pas évidemment des gens éminents qui sont autour de cette table, mais bien souvent contre ce constitutionnel, c'est l'hypothèse que tout ça est normatif, qu'il y a de la norme partout, qu'il faut la cataloguer, etc., mais qu'on n'en discute pas la substance qui est normative. Et au fond, lever cette hypothèse du tout normatif, à mon avis, a d'assez grandes vertus, et ça ne coûte pas extrêmement cher. Juste un petit mot que puisque je ne peux pas lancer le petit ping-pong avec les cas, c'est que je trouve très séduisant de passer du côté de la politique et de renoncer au droit. Je me demande s'il n'y a pas quand même dans la politique une dimension normante, c'est-à-dire de production d'évaluation forte. Et dès qu'on fait de la politique, au fond, on va dans la direction du normatif parce qu'on ne peut pas s'empêcher de dire ça compte plus et ça compte moins. Et donc, le premier pas est fait vers le droit qu'on a.
Régis Mansart, je crois, souhaitait intervenir. Je lui demanderai d'être très bref, car j'ai encore deux demandes d'intervention avant la fin du débat.
Merci beaucoup. C'est un peu difficile d'intervenir, je vais être très court. Il est toujours difficile, on a cité Hegel, je suis autorisé à le faire, de lire les signes du temps, mais je voulais soumettre à votre sagacité une évolution qui me marque et qui concerne au fond l'évolution de la légitimité du Conseil constitutionnel, par exemple. Et je voudrais parler en un instant de cette évolution qui concerne l'autorité des motifs dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire cette fameuse autorité de la chose interprétée par le Conseil constitutionnel. On le sait, la Cour de cassation a rendu 3 arrêts au mois d'avril 2011, nous expliquant que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement à ce qu'énonce l'article 53, ne lient pas uniquement l'État quand il est condamné, mais tous les arrêts lient tous les États. Il y a donc une autorité de la chose interprétée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Marc Guillaume, dont nous avons parlé tout à l'heure, a écrit dans la Revue des avocats au Conseil d'État un article nous expliquant citant de façon circulaire Bertrand Mathieu et Mathieu Dizan, qu'il y avait une autorité de la chose interprétée à venir des décisions du Conseil constitutionnel, et que c'était même la seule condition pour qu'il y ait désormais une sécurité juridique et un état de droit avancé, et donc une progression, je pense à ce que vous disiez tout à l'heure. Et enfin, évidemment, toute une partie de la doctrine plaide pour cette autorité de la chose interprétée. Alors, si on pense quelques instants aux théoriciens du libéralisme politique, sans faire de l'anachronisme, imaginons ce qu'on aurait pensé Cesare Beccaria, Benjamin Constant, Madame de Staël, etc., etc. Évidemment, on trouvera des théoriciens, même s'ils sont faibles, de ce type d'évolution aux États-Unis, quoique, il faudrait réfléchir. Alors, est-ce un dysfonctionnement qui nous amène à changer de bocal et à avancer vers un autre système? C'est quand même une interrogation. Et il me semble qu'une grande partie de la doctrine est encore muette sur cette évolution, et beaucoup nous présentent cela comme la condition sine qua non, y compris pour que cette merveilleuse question prioritaire de constitutionnalité fonctionne. Alors qu'est-ce que ça révèle, selon vous, sur l'évolution de la légitimité et du bien fondé d'une cour constitutionnelle, et sur le travail du juge, un juge qui gouverne, et nous devrions donc applaudir?
Bien sûr. Merci pour votre intervention qui était à la fois pertinente et brève, ce qui est une performance. Armel ?
Elle sera impertinente, non, pas pertinente, mais longue. Non. Très rapidement, je reviens un peu sur la fin de la deuxième partie. Au fond, il me semble qu'on a entremêlé des choses, ce qu'on peut faire, mais il faut bien distinguer les niveaux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois soutenir qu'il serait souhaitable, disons, que... Donc, il y a un peu caricatural de la France que le juge constitutionnel, dans le cadre des missions qu'il continue à exercer, argumente mieux, développe plus, mette en balance dans des arguments qui peuvent être un peu parfois plus larges que de la pure technicité juridique qui est souvent artificielle, que sa composition soit la composition du Conseil soit revue d'une manière ou d'une autre, plus pluraliste et avec plus de compétences techniques. Ça n'est pas contradictoire avec l'approche Valdron ou ce qui avait motivé un petit peu une partie de ce séminaire, qui est de rechercher parallèlement, en complément, si je puis dire, un autre étage vers, pas les fins ultimes, mais en tout cas dans les marges de la démocratie constitutionnelle, c'est-à-dire les cas véritablement indécidables. Évidemment, c'est ensuite une question de frontières. Quelle cause va pas supprimer purement et simplement toutes les juridictions? Donc, même si on n'avait pas de conseil constitutionnel, on aurait quand même des cours suprêmes dans les ordres de juridiction ordinaire, et on aurait des cas tangents ou des cas difficiles. Donc ça, évidemment, à part dans un monde très complètement de tabula rasa, on ne supprimerait pas ça. Donc ce qui veut dire que on peut s'interroger sur la question, et je crois que l'argument de Renaud Baumert, ça a été déjà dit aussi par d'autres, c'est qu'un peu plus de démocratie serait souhaitable plutôt que de le confier à ce corps restreint de juges. La dernière chose, c'est que lorsqu'on commence à quitter le terrain des propositions un peu utopiques, plus ou moins utopiques, et ça a été fait par Renaud, par Guillaume et d'autres, c'est que, évidemment, dès qu'on se rapproche des solutions un peu techniques, c'est là qu'il faut prendre en compte l'expérience de l'histoire des institutions. C'est-à-dire que comment on compose un corps élu à la proportionnelle, il y aura des partis, il y aura des groupes de citoyens qui vont choisir des listes. Et donc on va réavoir des vieux problèmes du système représentatif. Là on raisonne un peu à froid en se disant, bon, que ce soit par le tirage au sort ou par des élections très pluralistes et très ouvertes, il ne faut pas oublier que les hommes ont de l'inventivité pour orienter, parfois fausser, ces mécanismes. Donc ce que l'on essaye un peu parfois d'imaginer ici comme solution pour ouvrir un petit peu le jeu de la décision politique ultime, en fait, les classes politiques, ou même les corps de citoyens, ou la société à certains moments, peut faire émerger des solutions qui faussent complètement ce qu'on avait imaginé. C'est un peu peut-être ce constat qui avait conduit, je m'aventure un petit peu, mais les Américains, par exemple en Pennsylvanie ou dans le Vermont, avec leur conseil des censeurs, il y a des solutions qui rappellent un peu ce qui a été évoqué ici, qui ont été abandonnées assez vite parce que tout ça ne donnait pas de bons résultats, une assemblée de sages ou de passages qui examine tous les 10 ans la législation ou qui fait des propositions pour réviser la Constitution, au fond, c'est peu praticable. Je ne dis pas que ça ferme complètement le débat, mais évidemment, plus on se rapproche de solutions concrètes, plus on se heurte à des objections de cette nature.
Bon, c'est pas facilement faisable, mais enfin, en même temps, la comparaison avec le Vermont, je crois que ça marche pas tellement, parce qu'on n'était on était pas du tout encore à l'époque où vraiment la question de la transmission se posait, me semble-t-il. Mais je vais pas parler, c'est pas à moi de parler. Juste un mot sur qui décide du cas indécidable. Bah, dans le schéma Baumert-Pimentel, si j'ose dire, ou l'inverse, bah, c'est le constituant qui dit voilà, ça, c'est facilement réglé. Alors, Armel avait essayé de, avait l'ambition de présenter une motion de synthèse terminale, mais Philippe Lebeau va mettre son grain de sel terminal.
Alors, mon grain de sel terminal, donc l'hypothèse était celle d'un consensus sur les droits fondamentaux, et on avait cité le cas de l'avortement. Et il y a 20 ans, j'avais fait commande un article sur argumentation et droit constitutionnel autour des décisions rendues dans 5 pays en l'espace de 2 ans, 73-75, sur la question de l'avortement. Donc les États-Unis, l'Autriche, l'Italie, la France et l'Allemagne. Et on faisait des oppositions entre chacune et chacune, c'est un jeu très amusant, parce qu'il n'y a absolument aucune argumentation commune, allant jusqu'à l'absence d'argumentation, celle du Conseil constitutionnel français, hein, ça tient en 8 lignes, ou bien déjà les 120 pages de la cour de Karlsruhe. L'opposition entre l'Amérique et l'Europe, c'est qu'en Amérique, il y a un droit à l'avortement. Les législations visées ne sont pas celles du Congrès, ce sont celles des États. On va réduire à rien les législations pénales de 30 États. Mais il n'est pas sûr qu'on aurait fait la même chose avec une législation générale, peut-être plus douce du Congrès. Du côté de l'Europe, il y a toujours le droit à la vie, le droit à la vie du fœtus. Il y a une dérogation sur laquelle le législateur est libre de statuer, ça c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, sans l'expliquer, sur laquelle il ne peut pas à laquelle il ne peut pas déroger, et c'est ce qu'explique en 60 pages la Cour de Karlsruhe. Les deux autres juridictions sont noient le poisson, mais laissent plutôt l'autonomie du législateur. Mais on en revient certainement à l'idée que quand on s'occupe des matériaux, eh bien, on constate qu'effectivement, et au niveau de l'argumentation, puisque c'était deux thèmes qui ont été pris, il n'y a pas de droit. C'est un choix politique. Alors effectivement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser cela au Parlement? Alors la question de la législation liberticide, l'avortement, un consensus sur l'avortement, certes, mais entre-temps en France, ce que le Conseil constitutionnel français considérait comme une dérogation au droit à la vie du fœtus est devenu un droit. Et maintenant, il y a des tentatives récurrentes. Il y a déjà une loi qui réprime le délit d'entrave à l'avortement pour les groupes de prière qui ont lieu devant les hôpitaux, et il y a des tentatives visant à imposer aux médecins la pratique de l'avortement, alors que jusque maintenant on admettait une clause de conscience.
Bien, alors je retiens de l'intervention de Philippe la sentence, il n'y a pas de droit.
Oui.
C'est sur ces mots-là, ce séminaire va se clore. Juste un petit mot avant de vous libérer, deux petits mots avant de vous libérer. D'abord, je voulais très sincèrement remercier les intervenants qui ont accepté de nous faire l'amitié de venir débattre aujourd'hui et la salle. Nous avons eu un débat, je trouve, vraiment très intéressant et je m'en réjouis d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est le dernier séminaire de droit politique que nous effectuons dans le cadre du contrat ANR de droit politique. De ce fait, nous souhaitions également saisir l'occasion pour dire très solennellement et très publiquement à Brice Crotet, notre assistant, à quel point il a été remarquable. À quel point il nous est devenu indispensable. Je ne sais pas trop ce que Pierre Brunet fait avec ou ne fait pas avec les substances plus ou moins illicites dont il parlait tout à l'heure, mais je crois que nous aurons désormais beaucoup de mal à nous passer le bris si jamais il fallait envisager de le faire. Voilà, merci à tous.
Pardonnez-moi juste un mot pour dire quand même, puisque cette ANR se clôt, je concevrais mal et je pense que j'exprime un sentiment partagé que nous nous séparions sans remercier Carlos qui la porte à bout de bras depuis des années. Ouais.